Neuvième soirée, nous lisons Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine, et elle était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, « Fils d'homme, ces eaux revivront-ils ? » Et je dis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, eau sec, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux, « Voici, je fais venir en vous le souffle, et vous vivrez, et je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai venir sur vous de la chair, et je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous le souffle, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et je prophétisai selon qu'il m'avait commandé, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent un os de son os. Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair, et de la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Et il me dit, « Prophétise, ô souffle, prophétise, fils d'homme, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. » Et je prophétisai, selon qu'il m'avait commandé, et le souffle entra en eux, et ils vécurent, et se tinrent sur leurs pieds une immense armée. Et il me dit, « Fils d'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, et notre attente a péri. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres, mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous placerai sur votre terre et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. » Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Et toi, fils d'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et rapproche-les l'un de l'autre pour qu'ils soient un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ta main. Et quand les fils de ton peuple te parleront, disant, ne nous déclareras-tu pas ce que signifient pour toi ces choses ? Dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et je les ferai être un seul bois, et ils seront un dans ma main. Et les bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main sous leurs yeux. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre, et je les ferai être une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera leur roi à tous, et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes, et ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, et par leurs choses exécrables, et par toutes leurs transgressions. Et je les délivrerai de toutes leurs habitations où ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. et mon serviteur David sera roi sur eux, et il y aura un seul pasteur pour eux tous. Et ils marcheront dans mes ordonnances, et ils garderont mes statuts, et les pratiqueront. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos pères ont habité. Et ils y habiteront, eux et leurs fils, et les fils de leurs fils, à toujours. Et David, mon serviteur, sera leur prince à toujours. Et je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera avec eux une alliance éternelle. Et je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et ma demeure sera sur eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que moi je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. Même sujet que le précédent, c'est-à-dire promesse absolue de bénédiction pour Israël. Ce qui arrive aux ossements que voit Ézéchiel nous représente bien clairement ce dont je désire vous parler ce soir. Je veux dire ce que Dieu, dans sa bonté, fera en faveur d'Israël. En méditant ce sujet, je suivrai la méthode que j'ai toujours suivie, c'est-à-dire que je vous présenterai successivement les témoignages de la parole de Dieu. Vous vous rappelez que la dernière fois, en commençant ce sujet, nous avons vu la différence de l'alliance faite avec Abraham et de l'alliance de la loi sur le mont Sinaï, et que chaque fois que Dieu a voulu faire grâce à son peuple, il s'est rappelé de l'alliance faite avec Abraham. Nous avons vu aussi qu'Israël a pris les promesses sous l'alliance faite dans le désert et non sous celle faite avec Abraham, et que dès lors, Israël étant sous la condition de l'obéissance pour se conserver dans la jouissance des promesses, a tout à fait manqué, mais que, cependant, grâce à la médiation de Moïse, Dieu a pu bénir ce peuple. Je vais vous faire voir comment Israël a failli encore après cela, même étant placé dans le pays que l'Éternel lui avait donné, et que Dieu a suscité les prophètes d'une manière toute particulière pour le convaincre du péché dans lequel il était tombé, pour montrer aux fidèles que les conseils de Dieu sur Israël ne manqueraient jamais leur effet, que par le moyen du Messie serait accompli tout ce dont il avait parlé, et que c'est justement lorsqu'Israël aurait failli que ses promesses de son rétablissement seraient précieuses aux résidus fidèles de ce peuple. Rappelez-vous que, dans l'histoire du péché d'Israël sous la loi, nous avons l'histoire du cœur de chacun de nous, que, si nous nous plaçons devant Dieu, nous verrons qu'il n'y a que la grâce qui nous est connu par l'œuvre de Dieu, qui puisse non seulement nous soutenir, mais nous sortir de la situation où nous nous trouvons par suite du péché. Je vais vous faire remarquer la déchéance et la ruine d'Israël sous toutes les formes de son gouvernement, depuis son entrée dans la terre de Canaan. Vous savez que c'est Josué qui a introduit les Israélites dans ce pays. Le livre de Josué est l'histoire des victoires d'Israël sur les Cananéens, l'histoire de la fidélité que Dieu a montrée dans l'accomplissement de ce qu'il avait promis à son peuple. Les Juges et Samuel, c'est l'histoire de la chute d'Israël dans la terre de Canaan jusqu'à David. Mais, en même temps, l'histoire de la patience de Dieu. Voyons maintenant d'abord comment Josué représente aux Israélites leurs conditions et leur caractère. Il leur récite, chapitre 24, tout ce que Dieu a fait à leur égard, toutes ses grâces et toute sa bonté, et alors, verset 16, le peuple répond « À Dieu ne plaise que nous abandonnions notre Dieu ». Et verset 19, Josué dit au peuple « vous ne pourrez pas servir l'Éternel. » Et le peuple dit, « Non, mais nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Et Josué traita donc une alliance ce jour-là avec le peuple. Ce capitaine de leur salut les a conduits dans la terre de la promesse. Ils jouissent de l'effet de la grâce et ils entreprennent de nouveau d'obéir à l'Éternel. Eh bien, nous voyons, Juges chapitre 2, qu'ils ont complètement manqué. « Je ne chasserai pas vos ennemis devant vous, dit Dieu, mais ils seront à vos côtés. » Et verset 11, « Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » C'est toujours ce que nous voyons, bienfait de la part de Dieu et ingratitude de la part de l'homme. Citons les passages qui montrent comment Israël a prévariqué sous toutes les formes de gouvernement. 1 Samuel chapitre 4 verset 11 « Élie était le souverain sacrificateur, le juge et le chef d'Israël, mais nous voyons la gloire d'Israël jetée à terre. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéi, moururent. » Versets 18 à 21, « Élie lui-même mourut, et sa belle-fille nomma l'enfant qu'elle mit au monde, Ichabod, disant, « La gloire de l'Éternel est transportée d'Israël, parce que l'arche de l'Éternel était prise, et à cause de la mort de son beau-père et de son mari. » Alors Dieu, qui avait suscité Samuel, qui est nommé le premier de tous les prophètes, gouverne par lui Israël. Mais bientôt après, Israël a rejeté le prophète. 1 Samuel chapitre 8. Et l'Éternel dit à Samuel, « Obéis à la voix du peuple, en tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui l'a rejeté, mais c'est moi qui l'a rejeté, afin que je ne règne pas sur lui, selon toutes les actions qu'il a faites depuis le jour que je l'ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. » Dieu leur donna donc alors un roi dans sa colère, et l'on sait ce qui est arrivé à ce roi de leur choix. 1 Samuel chapitre 15, verset 26. Le jugement est prononcé, et Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, et que l'Éternel t'a rejeté, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Ces divers passages montrent qu'Israël a failli, et sous roi, et sous prophète, et sous sacrificateur, et le voilà ruiné sous le roi qu'il avait choisi. David est suscité en la place de Saül. Dieu, agissant par grâce, fait ce choix. C'est lui qui donne à Israël David, type de Christ, comme il était le père de Christ, selon la chair. Ainsi, par la bonté de Dieu, Israël devient extrêmement riche et glorieux sous David et sous Salomon. Mais nous verrons que ce peuple a prévariqué de nouveau sous ces deux princes. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 13. Ainsi Salomon fit ce qui déplaît à l'Éternel, et il ne persévéra point à suivre l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel fut irrité contre lui. C'est une chose fort triste à voir, comment le cœur de l'homme, dans toutes les circonstances possibles, se détourne de Dieu, et cela est général. C'est l'instruction que nous avons à retirer de l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez qu'il a été divisé en deux parties et que les 10 tribus sont devenues tout à fait infidèles. Dans la personne d'Akaz, la famille de David, dernier appui humain des espérances d'Israël, a commencé à devenir idolâtre. 2 Rois chapitre 16. 2 Rois chapitre 21, le péché de Manassé a mis le comble à toute cette infidélité. Voilà, en quelques mots, la conduite d'Israël et de Juda même jusqu'à la captivité de Babylone. l'Esprit de Dieu résume leur histoire, l'histoire de leur crime et de sa patience dans ses paroles frappantes, 2 Chroniques 36, versets 11 à 16. Or l'Éternel, le Dieu de leur père, leur envoya souvent parler par ses messagers. Il leur envoyait parler de bonheur, car il épargnait son peuple et sa maison, mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient leurs paroles et se jouaient de ses prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel envahît son peuple et qu'il n'y eut plus de remède. Voilà la fin de leur existence dans cette terre de Canaan où ils avaient été introduits par Josué. Le nom de Lo-Ammi, pas mon peuple, est inscrit sur eux. Ayant rapidement parcouru l'histoire de leur déchéance jusqu'à leur déportation à Babylone, nous avons maintenant à considérer les promesses qui ont soutenu la foi du résidu fidèle de ce peuple pendant l'iniquité et durant la captivité de la nation. Il y a une promesse importante à signaler qui servait comme de seconde base à l'attente des Juifs fidèles. Elle se trouve en 2 Samuel, chapitre 7 et 1 Chronique, chapitre 17. Entre ces deux passages, il y a cette différence que celui des Chroniques s'applique directement à Christ, et cette différence tient à celle qui existe dans ces livres, dont l'un, Samuel, est historique, et l'autre, les Chroniques, un résumé qui lie toute l'histoire depuis Adam, plus généalogiquement à Christ et aux espérances d'Israël, et duquel sont exclues par conséquent toutes les prévarications et chutes des rois d'Israël. Voici cette promesse. « Et j'établirai un lieu à mon peuple Israël, je le planterai, il habitera chez lui, il ne sera plus agité, et les injustes ne l'affligeront plus comme ils ont fait auparavant. » 2 Samuel, chapitre 7, verset 10, et 1 Chronique 17, verset 11. « Il arrivera donc que quand tes jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, je ferai lever ta postérité après toi, qui sera un de tes fils, et j'établirai son règne. Il me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Je lui serai père, et il me sera fils. » L'application de ces paroles à Christ se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, et nous avons dans ce témoignage les promesses faites à Abraham et à sa postérité, toutes les promesses faites à Israël, placées sous la sauvegarde et réunies dans la personne même du fils de David. Maintenant, chers amis, nous avons vu la promesse faite à David qui est le fond de toutes celles qui concernent la famille de ce nom. Nous avons vu la chute et aussi la promesse faite au fils de David, au Messie. Poursuivons l'étude de ce sujet dans les témoignages directs des prophètes. Ésaïe, chapitre 1, versets 25 à 28, nous décrit la pleine restauration des Juifs, mais par des jugements qui retranchent les méchants. Ésaïe, chapitre 4, versets 2 à 4, « En ce temps-là, temps de grand trouble, le germe de l'Éternel sera en ornement et honneur, et le fruit de la terre plein de sublimité et d'excellence pour ceux qui seront réchappés d'Israël. Et il arrivera que celui qui sera resté dans Sion et qui sera demeuré de reste dans Jérusalem sera appelé saint, et ceux qui seront dans Jérusalem seront tous marqués pour vivre, quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et qu'il aura enlevé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par le souffle de jugement et le souffle de consomption. » Le chapitre 6e du même prophète nous fait pleinement entrer dans l'esprit de la prophétie. C'était au moment où Akaz régnait. C'est Akaz qu'on a vu envoyer l'autel profane de Damas à Jérusalem. Et Ésaïe est envoyé à la rencontre de ce roi, fils de David, qui introduisait l'apostasie. On voit dans cette prophétie d'abord la gloire de Christ manifestée. L'Éternel trois fois saint, c'est ce que saint Jean dit au chapitre 12e de son évangile, cette gloire qui condamne toute la nation, mais qui produit par la grâce l'esprit d'intercession auquel la miséricorde qui rétablit la nation est la réponse. Miséricorde toutefois qui s'accomplit non sans des jugements, qui débarrasse les méchants, qui débarrasse des méchants le peuple et la terre. Après un endurcissement prolongé et porté à son comble par le rejet de Jésus-Christ et du témoignage qui lui a été rendu par l'Esprit dans les apôtres, lisez versets 9 à 13. Ésaïe chapitre 11, verset 10. En ce jour-là, les nations rechercheront la racine de Jessé. Nous voyons ici comment, quand et comment la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est quand il aura fait mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Alors le Seigneur rappellera Israël et y mettra encore sa main une seconde fois. Lisez versets 9 à 12. Chapitre 33, versets 20 à 24 et 49, tout le chapitre. On a dit que dans ces chapitres, Sion est l'Église. Mais quand toute la joie est venue, Sion a dit « L'Éternel m'a délaissé ». Impossible. Si Sion était l'Église, comment ? L'Église est délaissée au milieu de sa joie. Lisez donc, versets 14 à 23 du chapitre 49e. Même remarque sur le chapitre 62, aussi tout entier, également sur le 65, versets 19 à 25, où nous voyons très clairement qu'il s'agit de bénédictions terrestres, d'un état de choses jusqu'à aujourd'hui inconnu sur la terre. Dieu lui-même, dans ce jour-là, s'égayera sur Jérusalem. Voilà des promesses qui annoncent assez clairement la gloire à venir, soit de Jérusalem, soit du peuple juif. Je passe à des chapitres qui sont encore plus directs sur ce sujet. Jérémie, chapitre 3, versets 16 à 18. Il arrivera que quand il y a des choses qui semblent être l'accomplissement de bien des prophéties, par exemple le retour de Babylone, mais Dieu a fait à cela une réponse d'une nature particulière. Il a mis ensemble des choses qui ne se sont jamais trouvées ensemble. Par exemple, dans ce passage, toutes les nations s'assembleront vers elle. Il est clair que cela n'est jamais arrivé lors du retour de la captivité de Babylone. On peut dire « c'est l'Église ». Non, car en ces jours-là, la maison de Jacob montera de compagnie avec la maison d'Israël et ils viendront ensemble au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Enfin, nous voyons trois choses réunies. Jérusalem, le trône de l'Éternel, et Juda et Israël réunis, ainsi que les nations assemblées vers le trône de Dieu. Trois choses qui certainement n'ont pas été encore accomplies simultanément. Quand l'Église était fondée, Israël était dispersé. Quand Israël est revenu de Babylone, il n'y avait ni Église, ni assemblage de nations. Jérémie chapitre 30, versets 7 à 11. Il y aura un temps de grande détresse pour Jacob, mais Jacob en sera délivré, et les étrangers ne les asserviront plus, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ce peuple sera en repos et à son aise, et il n'y aura personne qui lui fasse encore peur. Certes, voilà pour Israël des événements heureux qui ne se sont pas encore réalisés. Jérémie 31, versets 23 à 40, jusqu'à la fin. Remarquez ici le verset 28. Qui est-ce que l'Éternel a arraché et démoli et détruit? Les mêmes qu'il dit qu'il bâtira et plantera. C'est un peu fort, en effet, d'appliquer tous les jugements à Israël et toutes les bénédictions qui concernent les mêmes personnes à l'Église. Et s'il s'agit là de l'Église, que veut dire la tour d'Ananéel jusqu'à la porte du coin, la colline de Gareb, etc. Et remarquez ces derniers mots du chapitre, ne sera plus jamais détruit. Chapitre 32, versets 37 à 42. Passage touchant quant aux pensées de l'Éternel sur ce peuple. Après leur avoir fait des promesses de bénédiction par la grâce et leur avoir assuré qu'il sera leur Dieu, l'Éternel dit, je les planterai dans ce pays solidement de tout mon cœur et de toute mon âme, car comme j'ai fait venir le mal, ainsi je vais faire venir tout le bien que j'ai prononcé en leur faveur. Chapitre 33, versets 6 à 26. C'est encore la bénédiction d'Israël, de Jérusalem, et cela par la présence du germe qu'il fera germer de David, qui exercera le jugement et la justice en la terre. Souvenons-nous, chers amis, que la parole de Dieu ne nous présente nullement le Saint-Esprit comme le germe de David, ni sa fonction comme celle d'exercer le jugement sur la terre. D'un autre côté, si l'on songeait à l'appliquer au retour de Babylone, je citerai ici Néhémie 9, versets 36 et 37. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. Combien peu le retour de Babylone a été l'accomplissement de tout ce que nous avons lu de promesses. Est-ce là toute l'âme, tout le cœur de Dieu en faveur de son peuple? Vous voyez comment l'Esprit de Dieu estime ce qui a été fait après le retour de Babylone. Ces promesses de Dieu ne sont donc pas accomplies. Ézéchiel, chapitre 11, versets 14 à 21. Jusqu'à ce jour, Israël, ou plutôt les Juifs, sont sous l'influence du jugement que porte ce passage. Quand l'esprit immonde sort d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Matthieu, chapitre 12, verset 43. Les versets qui suivent dans Ézéchiel parlent de leur dernier état, dans lequel nous avons vu qu'ils sont assujettis au jugement, et alors Dieu donne aux résidus un nouveau cœur. Ézéchiel, chapitre 34, verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, où nous voyons de nouveau que David, leur roi, est au milieu d'eux et que les bénédictions sont immuables. Chapitre 36, versets 22 à 32. Si l'on m'objecte, mais ce sont là des choses spirituelles auxquelles nous participons, je réponds, oui, nous participons aux bénédictions de l'olivier franc, mais cela ne l'a pas dépouillé de ce qui lui appartient. Pourquoi y participons-nous? Parce que nous sommes entés en Christ. Si nous sommes à Christ, nous sommes les enfants d'Abraham et nous participons à tout ce qui est spirituel. Vous demeurerez au pays que j'ai donné à vos pères. L'Église n'a qu'un Père qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je ferai remarquer en passant l'allusion que renferme un passage très connu, Jean chapitre 3, verset 12. Allusion à quoi? À toutes ces choses qui ont été dites dans les prophètes, et particulièrement dans le passage qui nous a occupés en dernier lieu, et dont nous avons presque une citation textuelle dans les paroles que notre Seigneur adresse à Nicodème. « Comment, lui dit-il, vous, docteur d'Israël, vous qui devez comprendre qu'il faut absolument qu'Israël, pour jouir des promesses, ait un cœur nouveau et purifié, comment vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Quand je dis qu'il faut être né d'eau et d'esprit, quoi? Vous ne me comprenez pas? Et si, quand je vous parle de choses terrestres, vous ne les comprenez pas, comment croirez-vous les célestes? Comme s'il leur disait, si je vous ai parlé des choses qui s'appliquent à Israël, Si je vous ai dit qu'Israël doit être né de nouveau pour jouir des promesses terrestres qui lui appartiennent, et que vous n'ayez pas compris, comment comprendrez-vous des choses célestes, la gloire de Christ exaltée dans le ciel, et l'Église s'accompagne dans cette gloire céleste? Vous n'avez pas même compris les enseignements de vos prophètes. Vous, docteurs d'Israël, vous auriez dû comprendre au moins les choses terrestres, ce qu'Ézéchiel et d'autres prophètes ont dit sur ce sujet. Nous voyons effectivement dans ce passage d'Ézéchiel, comme dans plusieurs que nous avons cités, le fruit des arbres, le revenu des champs et autres choses semblables qui sont les biens terrestres promis à Israël, mais en même temps la nécessité d'un changement de cœur en Israël pour en jouir. Il faut qu'Israël soit renouvelé dans son cœur pour recevoir les promesses de Canaan. Il faut que Dieu les fasse marcher dans ses statuts en leur donnant un nouveau cœur. Et alors, mais seulement alors, ils jouiront des bénédictions prédites. Voilà, Nicodème, ce que vous deviez comprendre par le langage même de vos prophètes. Dans le 37e chapitre d'Ézéchiel, nous avons une histoire détaillée du rétablissement d'Israël, la réunion des deux parties de la nation, leur rentrée dans leur terre, leur état d'unité et de fidélité à Dieu dans cette même terre, Dieu étant leur Dieu, David leur roi étant présent pour toujours, tellement que les nations sachent que leur Dieu est l'Éternel quand son sanctuaire sera au milieu d'eux à perpétuité. Chapitre 39, versets 22 à 29. Il est évident que cela n'est pas arrivé, puisqu'à cette époque, Dieu ne leur cachera plus sa face, comme il le fait d'ailleurs encore à l'heure qu'il est, et qu'il les aura rassemblés dans leur terre sans en laisser aucun reste parmi les nations, ce qui évidemment n'est pas encore accompli. Rappelons en terminant les grands principes sur lesquels ces prophéties reposent. La restauration des Juifs est fondée sur les promesses faites à Abraham sans condition. Leur chute vient de ce qu'ils ont entrepris d'agir par leur propre force, et après avoir exercé de toute manière la patience de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de remède. Le jugement est venu sur eux, mais Dieu revient à ses promesses. Eh bien, je finis en appliquant cela à nos propres cœurs. C'est toujours la même histoire, toujours l'histoire de la chute. Dès que Dieu nous a placés dans telle ou telle situation, voilà que nous manquons tout aussitôt. Mais il y a derrière tout cela un principe de force, c'est-à-dire la révélation des conseils de Dieu et par conséquent des promesses sans condition. Et nous avons vu que c'est la médiation et la présence de Jésus qui est l'accomplissement de ces promesses. Nous avons aussi vu que Dieu n'exécute le jugement depuis longtemps prononcé qu'après une patience extraordinaire, après avoir épuisé tous les moyens possibles qui auraient dû rappeler l'homme à ses devoirs envers Dieu s'il y avait eu une étincelle de vie dans son cœur. Mais il n'y en avait point. Les individus vivifiés par la grâce tiennent aux promesses qui doivent trouver leur accomplissement dans la manifestation de celui qui peut les réaliser et en mériter la réalisation pour les autres. Et rien ne met plus en lumière ces principes que cette histoire d'Israël. Toutes ces choses, dit l'apôtre, leur sont arrivées comme type, et elles ont été écrites pour notre enseignement. C'est un miroir où nous pouvons voir d'une part le cœur de l'homme qui manque toujours, de l'autre la fidélité de Dieu qui ne manque jamais, qui accomplira toutes ses promesses et qui manifestera une puissance admirable, laquelle surmontera toute l'iniquité de l'homme et la puissance de Satan. C'est quand l'inimitié est venue à son comble qu'il dit « Rends épais leur esprit » et même ce n'est que dans le livre des Actes au chapitre 28 et verset 27 que nous trouvons l'accomplissement de ce jugement prononcé près de 8 siècles auparavant par le prophète Ésaïe. C'est quand ce peuple a tout rejeté que Dieu l'endurcit pour en faire un monument de ses voies. Quelle patience de la part de Dieu! Ainsi, pour ce qui nous concerne, l'exécution du jugement est suspendue depuis 18 siècles et Dieu épuise encore toutes les ressources extérieures de sa grâce pour voir s'il y a une pensée de bien dans le cœur. Comme dit le Seigneur, « Si je n'étais pas venu, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils n'ont point d'excuse de leur péché. Si je n'avais point fait des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Maintenant ils ont vu et ils ont haï, et moi et mon Père. Patience admirable, grâce infinie de celui qui s'intéresse à nous, même après notre rébellion et notre iniquité. À lui en soit toute la gloire. »